le 8 mai. C'est aussi la fête d'un saint très peu connu, mais un saint extraordinaire, qui s'appelle Pierre de Tarentaise. Pierre de Tarentaise, qui a été cistercien, l'un des premiers cisterciens, l'un des premiers disciples, donc, de saint Robert de Molène, qui a fondé, comme vous savez, les cisterciens à Cîteaux. Et une de ses plus grandes recrues dès le début fut saint Bernard, avec toute une bande de ses cousins, ses frères, de ses amis. Ils étaient rentrés, je pense, une vingtaine ou 24 ensemble. Et Pierre de Tarentaise a fait de même, et je vous parlerai de ça. Mais on va commencer par cette quasi-québécoise, cette quasi-canadienne, qui est Marie-Catherine de Saint-Augustin.
Alors, on se retrouve au tout début de la colonie, en pratiquement 1600, avec Monseigneur de Laval.
C'est ça. C'est à l'époque du tout début de la colonie. Cette femme, qui n'a vécu que 36 ans et qui en a vécu 20 à Québec, est donc arrivée ici à 16 ans. Extrêmement jeune, elle était déjà religieuse et déjà professe. On peut se dire, mais ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que c'est ça? C'est... Mais il faut se situer dans le temps. Hein. Je crois que les enfants, à l'époque, vieillissaient peut-être beaucoup plus vite qu'on ne pense, et d'autant plus que la moyenne d'âge pour le décès, si on peut dire, était d'environ 36 ans.
Oui, c'est ainsi qu'on s'aperçoit que des jeunes filles qui venaient ici se mariaient à 14, 15, 16 ans.
Exactement. Alors voilà, cette Catherine de Saint-Augustin, dont le véritable nom n'est pas Catherine de Saint-Augustin, mais bien Simon, mon Dieu, de Lompré. C'est une famille noble, les Simon de Lompré, et sa mère était une Delaunay Jourdan aussi. Son grand-père était lieutenant civil et criminel à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Saint-Sauveur-le-Vicomte, où elle est née le 3 mai 1632. Et elle est morte à Québec le 8 mai, à 36 ans. Et dès sa naissance, elle était assez étonnante comme petit enfant. Et en l'espace de quelques années, elle avait déjà un raisonnement, une façon de voir les choses qui étonnait l'entourage. On disait souvent en la voyant, « Voyez, cette petite fille sera un jour religieuse, c'est pas possible. » Elle était remarquable, remarquable. Il faut vraiment lire la vie qu'a écrit à l'époque le fameux père Paul Ragneau, qui l'a connu, un jésuite du début de la colonie. Il y a de nombreux ouvrages qui sont parus à son sujet, et en particulier un énorme bouquin qui s'appelle « L'itinéraire mystique de Catherine de Saint-Augustin » par Don Guy-Marie Houry, un bénédictin qui vit toujours, qui est un moine de Solesmes, qui a été aumônier ici des Bénédictines et qui est maintenant dans le Vermont, je crois. Je signale que Catherine de Saint-Augustin a été béatifiée en même temps que quatre autres personnes le 23 avril 1989. Elle a été béatifiée en même temps que deux martyrs et deux fondatrices de communautés. Elle n'a rien fondé. Elle a été simplement une femme extraordinairement charitable, bien que toute jeune, auprès des Amérindiens à Québec. Elle avait même appris la langue, comme les sœurs dont elle faisait partie, qui sont les hospitalières, des hospitalières venues de Bayeux, en France, où elle était entrée elle-même au monastère, à l'âge de 12 ans. On se dit, ça n'a pas de sens, entrer au monastère à 12 ans. Il faut dire que son père lui-même trouvait que ça n'avait pas de sens. Monsieur Simon de Lompré trouvait que sa fille était beaucoup trop jeune pour entrer, mais elle y tenait tellement que finalement, comme il l'aimait beaucoup, c'était son enfant préféré, et qu'elle était remarquable d'équilibre, de charme et d'intelligence, il a finalement accepté, et les religieuses l'ont pris. On peut se dire, comment se fait-il que les religieuses aient accepté une enfant si jeune? C'est que ça se pratiquait à l'époque. Il faut se rappeler que quelques siècles avant, et même à l'époque, d'ailleurs, on prenait des enfants de 5 ans, 6 ans. De grandes saintes, de grands saints sont entrés très jeunes. Et moi-même, j'étais témoin d'une chose comme ça un jour. J'étais à l'abbaye d'Aiguebelle et le père hôtelier, qui était remarquable, je lui dis, vous êtes extraordinaire avec les jeunes hippies d'aujourd'hui qui arrivent à l'hôtellerie. Vous avez une façon de leur parler et de les recevoir. Vous avez fait du travail social, sans doute, avant d'entrer à l'abbaye. Qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir moine trappiste? Mais dis-moi, je n'ai jamais rien fait avant. Je suis entré ici à l'âge de 13 ans. Alors on se dit, c'est incroyable, entrer là à l'âge de 13 ans et avoir un tel équilibre comme hôtelier en plein fin du XXe siècle. Eh bien, c'était la même chose pour Catherine de Saint-Augustin. Elle est entrée très jeune et elle a tout de suite marqué la communauté. Il faut dire qu'elle a été influencée par Saint-Jean-Eudes, qui avait prêché et qui l'a marqué très jeune. À l'âge de 5 ans, elle est tombée un peu malade, et pendant 3 mois, elle avait des maux de tête. Ce qui arrive, c'est curieusement dans la vie de plusieurs siens, on peut se demander pourquoi, mais elle disait, j'avais néanmoins une telle joie dans mon cœur à la pensée que je faisais la volonté de Dieu, qu'en dépit des larmes et des cris arrachés par la violence du mal, je me contentais de dire que la volonté de Dieu soit faite en moi, et je m'estimais heureuse de souffrir pour me former.
Alors, nous continuons la biographie de Marie-Catherine de Saint-Augustin, puis il me vient à l'esprit une pensée. C'est incroyable le nombre de femmes qui ont été à l'origine de nos fondations.
Et qui est considérée, elle, comme une fondatrice de l'Église au Canada. Hein. Elle n'aura pas fondé une communauté, elle est simplement une hospitalière à l'hôpital général de Québec, où ces hospitalières sont toujours là, les sœurs de la miséricorde de Jésus. Et pour revenir à Catherine de Saint-Augustin, à l'âge de 9 ans, 9 ans et demi, elle a un songe. C'est possible d'avoir de ses rêves, hein. C'est une espèce de cauchemar qu'elle fait. Et elle voit dans son rêve une femme, une religieuse, qui vient la défendre et la sauver des attaques qui surviennent dans son rêve. Alors elle se présente pas loin de chez elle, à quelques lieues de chez elle, à Bayeux, dans ce monastère des Sœurs de la Miséricorde, et elle se rend compte que la supérieure du monastère est exactement celle qu'elle a vue dans son rêve. Et on dit que ce songe fut pour cet enfant, toute jeune, la grâce décisive. Elle a compris alors que Dieu la voulait, et la voulait sans partage. Puis elle a décidé, dès ce jeune âge, à 10 ans, de ne vivre que pour Dieu. Je sais pertinemment que c'est possible. Ça existe même encore aujourd'hui, au XXe siècle. Il y a des enfants qui ressentent ça au fond de leur cœur. Et sous la direction des jésuites, des pères jésuites de l'époque, à Bayeux, elle a acquis beaucoup plus de ferveur et de désir vraiment déjà de se sanctifier. Et elle suit avec fidélité un espèce de règlement de vie personnel dans la maison où elle, chez ses parents. Et elle fait donc une courte méditation chaque jour d'environ 7-8 minutes. Pour une enfant de 8 ans, c'est assez étonnant. Et elle fait un examen de conscience le matin, elle essaie de communier le plus souvent possible, ce qui était très rare à l'époque. Et on se rend compte autour d'elle que l'Esprit de Dieu travaille vraiment en elle. D'ailleurs, à 10 ans, elle écrit un très très beau texte, dans une langue admirable pour l'âge de 10 ans, c'est surprenant. Ce n'est pas de la qualité du français de Marie de l'Incarnation, qui a aussi vécu à Québec une Ursuline, n'est-ce pas, très connue, une très grande mystique, mais c'est quand même très beau. Je vous en lis simplement la fin. « Je veux remercier tous les jours, » écrit ce petit enfant de 10 ans, « je veux remercier tous les jours la très sainte et adorable Trinité de toutes les grâces dont elle vous a comblé. » Elle parle à la Vierge. Le Père de vous avoir choisi pour sa fille, le Fils pour sa mère, et le Saint-Esprit pour son épouse. Par ces glorieux titres, ô Marie, je vous conjure d'abaisser vers moi votre maternelle bonté et d'agréer que je me dise absolument vôtre. Je le proteste à la face du ciel et de la terre, et je donnerai volontiers mon sang pour sceller cette vérité. Permettez, ma très sainte dame et reine, qu'en foi de ce que je viens d'écrire, je le signe. Catherine Simon, c'est son vrai nom, c'est Catherine Simon de Lompré, n'est-ce pas? Catherine Simon, votre esclave, servante et fille, quoique indigne. En ce jour
fête de la nativité de Marie, Catherine entre donc dans la confrérie du Saint-Rosaire et de la rédemption des esclaves, ce qui était une congrégation assez répandue à l'époque, une congrégation de laïcs. Et on s'aperçoit par son style et par son écrit qu'elle a déjà une théologie trinitaire, une façon de s'exprimer qui est celle d'une adulte, au fond. À 10 ans, il était bien difficile de comprendre comment une enfant peut s'écrire de telles choses. C'est superbe. Alors, Jean-Eudes, qui la rencontre, prédit qu'elle sera infailliblement religieuse, puis il est difficile pour tout le monde de ne pas voir l'action du Saint-Esprit dans le triple vœu que Catherine fit, en son particulier, à cette époque, à cet âge-là, n'est-ce pas, de prendre la Sainte Vierge pour mère, de ne jamais commettre aucun péché mortel et de vivre en perpétuelle chasteté. C'est bien ce que professait d'ailleurs le tiers-ordre que Saint Jean-Eudes institua peu après, et Saint Jean-Eudes a eu donc une influence assez remarquable. C'est le fondateur des Eudistes, qui ont ici des paroisses au Québec et des collèges. Alors, donc, elle entre au monastère très jeune, elle n'avait que 12 ans et demi. C'est le 7 octobre 1644 qu'elle dit adieu à sa famille, malgré les protestations de son père, qui s'est finalement soumis, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle entre donc au monastère de Bayeux, c'est à peu près à 25 lieues, disons, de Saint-Sauveur-le-Vicomte, où elle est née. C'est situé, ça, dans le Calvados, à 3 000, si on veut, de la mer, hein, de l'océan. C'était une ville, Bayeux, qui était très importante. Hein. Elle est d'ailleurs un centre de tourisme encore aujourd'hui à cause de sa très belle cathédrale. Et à 13 ans, elle est religieuse, elle est novice, et les gens sont émerveillés de sa qualité. Elle est à l'Hôtel Dieu de Bayeux, en tant que postulante et novice, et elle sert les religieuses, elle sert même auprès des malades à cet âge-là. On dit qu'elle s'acquittait de tout ce qu'on lui demandait avec une ferveur et un zèle et une maturité qui étaient tout à fait au-dessus de son âge. Elle est toujours très précoce. On peut se scandaliser qu'une enfant comme ça soit mise au service des malades dès cet âge-là, mais au fond, quand on pense simplement, on est plein d'admiration pour les prodiges du piano, mettons Mozart. Mais Mozart pratiquait le piano, n'est-ce pas, pendant des heures et des heures et des heures chaque jour, et son père était très exigeant. On ne s'en scandalise pas trop. On comprend qu'un enfant puisse finalement faire des travaux comme le piano ou d'autres choses, mais pourquoi pas le soin des malades, finalement, surtout quand on tient compte de l'époque. Et le 24 octobre 1646, elle a 14 ans, ses vœux sont comblés, elle revêt l'habit religieux, et elle dit que son cœur surabonde de joie. Sœur Catherine est donc au noviciat, à l'Hôtel Dieu de Bayeux, chez les Sœurs de la Miséricorde de Jésus, et elle dit à sa maîtresse des novices un jour un peu en blaguant, « Faites-moi tout ce que vous voudrez, vous ne m'ôterez point l'habit, et je ne sortirai point d'ici, si ce n'est pour aller en Canada. » Elle est décidée, très jeune. Elle fait penser un peu à Thérèse d'Enfant Jésus, qui toute jeune avait déjà une volonté de faire. Elle avait une pratique qui était très étendue dans l'Église et qui l'était jusqu'à dernièrement, c'est les oraisons jaculatoires brûlantes. Une façon de s'écrier vers Dieu dans le fond de son cœur, tout en travaillant ou en se promenant. Et l'une des choses qu'elle aimait beaucoup dire, c'était « Mon Jésus, mon tout, mon amour, vous êtes toute ma joie, toute mon espérance et tout mon bien ». Elle disait aussi, « Vous m'aimez, ô mon aimable Jésus, oui, je veux que mon cœur vive et meure de votre amour. » Elle était vraiment amoureuse, décidée. Et à 15 ans et 11 mois, à la fin de son noviciat, eh bien, elle écrit un texte de consécration étonnant, qui est un peu trop long pour le lire, mais qui est très très beau et que l'on retrouve dans tous les livres à son sujet, et en particulier dans ce petit ouvrage de Mgr André-Marie Chimiquel, qui est évêque auxiliaire à Montréal, et qui s'appelle Bien Bienheureuse, Marie-Catherine de Saint-Augustin, et qui l'a publié il y a quelques années à peine. Donc, elle a 15 ans, et puis on sait que les hospitalières étaient arrivées de Bayeux à Québec en 1639, et elle aspire vraiment à partir pour le Canada. Elle veut se mettre au service, comme on disait à l'époque, des sauvages, aussi bien que des Français. Elle avait une passion pour les Amérindiens, comme ses sœurs d'ailleurs. une passion étonnante qui, déjà à l'époque, les portait à apprendre la langue huronne. Elle parlait le huron, ces sœurs-là. Et elle aimait beaucoup, 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 beaucoup s'occuper des plus pauvres et des plus malheureux parmi eux. Elle décide d'ailleurs avec ses sœurs de rester à Sillery, c'est là qu'elles étaient établies, et c'était en dehors des frontières de la ville de Québec. Elles étaient en grave danger d'être attaquées par les Iroquois, mais elles ont conjuré, si on peut dire, le gouvernement de leur permettre de courir les mêmes risques que leurs malades qui étaient là. Et cette réponse, qui était sublime, n'est-ce pas, était bien propre, on peut dire, à séduire l'âme grande et forte de Catherine. Hein? Et ça a eu un écho dans son cœur qui a retenti pour toute sa vie. Et depuis 1642, René Goupil, Saint René Goupil, était mort martyr, et ça avait beaucoup marqué la colonie. Il y avait aussi Antoine Daniel, tous ces jésuites qui sont morts, ont marqué le début de cette colonie et donnaient du cran et du courage même à des femmes menues et qui ne semblaient pas avoir une très grande santé. Mais Catherine de Saint-Augustin était l'une des plus fortes parmi elles, mais elle était aussi douée de dons de toutes sortes. Elle avait des grâces extraordinaires et alors qu'elle a eu 16 ans révolus, elle a émis ses vœux et c'est là qu'elle est partie vraiment pour la France, pour le Québec, pour le Canada, si on veut, dans une traversée qui a duré 2 mois et demi à bord d'un bateau qui s'appelait le Cardinal et qui a jeté l'ancre dans la rade de Québec le 19 août 1648. À cette époque, il y avait de nombreux baptêmes. Les jésuites faisaient des baptêmes chez les Amérindiens. En une seule année, ils ont baptisé 1300 fidèles. Et le père Jérôme Lallemand dit « Je n'eusse jamais cru pouvoir voir, après 50 ans de travail, la 10e partie de la piété, de la vertu et de la sainteté dont partout j'ai été témoin dans la visite que j'ai faite dans les églises de ces gens. » Et alors donc, elle cherche, Catherine de Saint-Augustin, à instruire les indigènes dans leur langue, à les soigner. Mais la salle de l'hôpital, il faut bien le dire, était toute petite. C'était un édifice de bois long et étroit et fort sombre qui n'avait pas plus de 14 pieds de largeur. Alors, on a essayé d'agrandir tout ça. Et Catherine de Saint-Augustin y a travaillé toute jeune de peine et de misère. Et on peut dire d'elle que déjà, dès son arrivée, elle était une grande sainte, elle était parfaite, disait-on, par son sourire, sa bienveillance, son équilibre. Et on verra par la suite les œuvres fantastiques qu'elle accomplit pendant 20 ans à Québec.
Saint-Pierre de Tarentaise.
Eh oui, un évêque remarquable du 12e siècle qui est né en 1102. Donc, à peine, disons, 12 ans après la fondation de Citeaux. L'abbaye de Citeaux, c'est-à-dire aussi le début des cisterciens, de la Réforme. À l'époque, les bénédictins, qui étaient les moines les plus répandus à travers toute l'Europe, fondés vers 540, n'est-ce pas, au Mont-Cassin, justement, nous sommes ici, avenue du Mont-Cassin, et les bénédictins étaient devenus extrêmement puissants. Qu'on pense simplement à l'abbaye de Cluny, en France, qui était plus vaste que Saint-Pierre de Rome à l'époque. Pas le Saint-Pierre de Rome qu'on connaît aujourd'hui, mais le Saint-Pierre de Rome de l'époque. Cette abbaye, il y avait 2000 moines. Ils avaient 5000 monastères et prieurés à travers l'Europe. Alors, les bénédictins, qui étaient quand même admirables, ont suscité de nombreuses œuvres fantastiques. Et en particulier, ils ont fourni à la papauté de Saint-Pape, et de nombreux cardinaux, c'est assez étonnant, eh bien, ils avaient besoin d'une réforme. Et Saint-Robert de Molèmes a fondé, donc, Citeaux en 1090, et quelques années plus tard, en 1122, est entré Pierre, connu comme Pierre de Tarentaise. Pourquoi parler de lui? C'est un moine cistercien qui entre donc à 20 ans, mais qui a été marqué grandement par son père. Il faut dire que son père, qui vivait au pied des Alpes,
pas tellement loin de la Grande Chartreuse, pas tellement loin de l'abbaye de Hautecombe. Ce sont des monastères qui existent toujours aujourd'hui, ça. Eh bien, il recevait chez lui les procureurs des Chartreux, c'est-à-dire les gens qui s'occupaient de ces ermites pour leur fournir les choses dont ils avaient besoin. Et il recevait aussi chez lui des moines de Bonnevaux. C'est un nouveau monastère cistercien qui était dans la région. Et il les recevait au point de coucher sur la paille lui-même pour leur donner les lits de la maison. Il les traitait le mieux possible, puis il les gardait à la maison dans le but d'influencer ses enfants. Et en effet, Pierre, tout jeune, à 15 ans, avait des longues conversations avec ses moines ou ses procureurs qui passaient. Et ça lui a donné le goût de se rendre à Bonnevaux, dans cette abbaye, où il a été très bien reçu par les moines, avait des conversations qui lui plaisaient beaucoup, au point qu'à 20 ans, il y est entré. Et on l'a accepté avec grand joie. Et, absolument phénoménal, il a entraîné son frère aîné Lambert, qui est venu le rejoindre et qui est devenu abbé d'un monastère cistercien. Il a fait rentrer aussi, pas longtemps après, son jeune frère André. Et finalement, son propre père a décidé de se séparer de sa mère en entrant lui-même à l'abbaye de Bonnevaux pour rejoindre son fils. Et la mère, elle, est entrée avec ses filles, avec sa fille plutôt, ils avaient une seule fille, sont entrés chez des cisterciennes. Et ça se fait même encore aujourd'hui. Hein. Un homme et une femme peuvent entrer dans des monastères séparés à condition d'émettre leur vœu le même jour à la même heure. Et c'est évident. Parce qu'il ne faut quand même pas séparer ce que Dieu a uni, comme on dit dans la Bible.
Oui, quand on parle des cisterciens, évidemment, il nous vient à l'idée un ordre très sévère, des jeûnes, des pénitences, le silence absolu. C'est vrai, hein?
Oui, absolument. Surtout à l'époque, on avait une conception, évidemment, de la religion qui était bien différente de celle d'aujourd'hui. Surtout depuis le Concile. Parce que quand on y pense, les cisterciens ont été réformés à leur tour par l'abbé de Rancé, il y a quelques siècles à peine, et à la trappe, et c'est pour ça qu'on les appelle, ces cisterciens réformés, des trappistes. C'était le nom du monastère, la trappe. C'est d'ailleurs tout un programme que d'entrer à la trappe, n'est-ce pas? Pour nous, Québécois, ça veut dire un peu aller vers quelque chose de très secret et puis de fermé. Et en effet, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'allais à Oka, c'était très, très, très strict. On avait l'idée que faire pénitence, souffrir, était vraiment la seule façon de racheter le monde. On avait presque oublié l'amour. On avait presque oublié que c'est par le cœur qu'on sauve le monde. Mais ça n'était pas complètement oublié. On l'a vu tout à l'heure avec Catherine de Saint-Augustin. Déjà très jeune, elle était passionnée d'amour pour Jésus.
Ces hommes-là et ces femmes, enfin, ils avaient une vocation quand même à la solitude, au silence, à la pénitence.
Et à glorifier Dieu, et à le prier, à l'honorer pendant des heures et des heures. Ils avaient le goût de vivre ici-bas ce que, d'après eux, nous allons vivre pendant l'éternité, c'est-à-dire être en action de grâce et glorifier Dieu pour toujours. Alors, quant à le faire pendant l'éternité, pourquoi pas commencer tout de suite, même à 20 ans.
Et il y avait une partie de leur vie qui était donnée au travail manuel.
Au travail manuel, surtout les cisterciens, on faisait beaucoup de travail manuel, encore plus que les bénédictins. Chez les bénédictins, c'était plutôt les frères converts qui faisaient le travail manuel, ceux qui n'avaient pas de talent pour les hautes études, les études avancées, tandis que les moines de cœur faisaient des études très avancées. C'est comme ça que les bénédictins, ont laissé derrière eux une expression, un travail de bénédictin. Ça veut dire un travail fantastique sur le plan de la recherche intellectuelle ou des publications. Si on publie un dictionnaire immense, on dit c'est un véritable travail de bénédictin. L'expression est restée. Et alors, Pierre de Tarentaise, dans son monastère, est devenu abbé. Et il est devenu abbé même d'un autre monastère. Il a toujours été charitable à l'égard des pauvres qui passaient dans la région. Et ses vertus l'ont fait connaître. Il voulait rester caché dans les Alpes, mais rien à faire. Sa sainteté s'est répandue dans la Savoie, le Piémont, puis les États voisins, c'est-à-dire tout autour des Alpes, si on peut dire. Et il est devenu archevêque de Tarentaise pour remplacer l'évêque qui était mort. Et là, il a été élu par tout le clergé. Tout le monde voulait le voir, aller vers lui. Il est devenu tellement puissant par sa sainteté qu'il, bien qu'archevêque, il s'habillait en moine, il vivait très pauvrement, dans des vêtements très humbles, cherchait à se déplacer très très simplement, et un jour, il se présente au cours d'un voyage à l'hospice du petit Saint-Bernard dans les Alpes. Puis le frère portier lui dit, « Mais qui va là par ce jour de froidure ?» Et Pierre de Tarentaise, qui est archevêque, dit, « Ce n'est que moi, votre évêque. » Et le frère portier lui dit, « Mais que vous est-il arrivé, Excellence ? Vous êtes tout violacé. » Et Pierre de Tarentaise dit, « Oh, j'arrive frigorifié, il ne me reste que ma coule pour me vêtir. » Et le frère portier lui dit, « Mais vous avez été détroussé sur les routes de la montagne. » Et l'archevêque de répondre, « Mais non, j'ai simplement donné ma robe à une pauvre femme qui avait encore plus froid que moi-même. » Cette anecdote au sujet de Pierre de Tarentaise au petit Saint-Bernard, alors qu'il arrive avec seulement sa coule parce qu'il a donné ses vêtements à une pauvre femme qui avait encore plus froid que lui, ça me rappelle Jean XXIII qui s'est présenté comme ça à l'abbaye d'Einsiedeln en Suisse. Et puis, il se présente très tard, il est seul, il est le cardinal Roncalli. C'est quand même un homme important, il a été délégué là par Rome, et puis... Il sonne à la porte et le portier, il est tard le soir, il est en retard, et le portier risque de lui refuser même l'entrée en lui disant d'aller coucher à l'hôtel, mais finalement se rend compte de qui il est, tellement le futur Jean XXIII est d'une humilité remarquable. Et cette humilité, elle habite Pierre de Tarentaise, cet archevêque ancien cistercien, qui garde de son ordre les coutumes. Alors il prie, pour ainsi dire, de la même façon, il se vêt très pauvrement. Il est, par contre, un prédicateur de la parole de Dieu avec un zèle, mais une ferveur incroyable. Il console les plus malheureux. Il exhorte à la conversion les pécheurs. Il va catéchiser même lui-même les pauvres, les enfants, les personnes simples. Il écoute même de nombreuses confessions. Il est un tendre père, dit-on à l'époque. Un évêque est absolument différent de presque tous les évêques, et sa bonté, cependant, ne l'empêche pas d'être relativement sévère à l'égard des pécheurs qui ne veulent pas se convertir. Alors, il trouve son diocèse, au début, entièrement désolé. La mauvaise conduite de son prédécesseur était épouvantable, et il y avait une corruption dans tout le diocèse, alors... Il a commencé à entraîner ses ecclésiastiques ou ses prêtres, les religieux, etc., à essayer de célébrer le fils du divin comme du monde. Parce que dans ce temps-là, dans les cathédrales, on célébrait le fils du divin. Ça existe encore dans quelques cathédrales dans le monde. À Paris, d'ailleurs, à Notre-Dame de Paris, il y a des chanoines qui récitent encore le fils. Alors, il les a mis dehors, il les a remplacés. Il a fait des réformes très, très audacieuses. Et il était un pasteur vigilant qui, sur sa route, laissait des gens miraculés. C'est ça qui est absolument étonnant. On se dit, c'est des histoires du 12e siècle, mais paraît-il qu'on en a les preuves les plus sérieuses d'après les témoins qui ont rapporté ces faits-là. En somme, il vit ce que Jésus avait prédit, que... Ceux qui voudront bien le suivre feront des miracles encore plus grands que lui. Alors il fait marcher des boiteux, il donne la parole aux muets, il rend l'ouïe aux sourds, il guérit des tas de malades. Et à ce point même que l'on raconte dans un petit ouvrage très sympathique, Notre Saint de ce jour pour le mois de mai, de Jean Husneau, publié aux éditions de l'Œil, on raconte que... Un jour, il ne sait plus comment faire devant tout le monde qui le poursuit. Alors, il monte dans un clocher, puis un escalier pour monter, un escalier pour descendre. Et c'est ainsi qu'il est moins écrasé par le monde. Et les gens viennent pour lui parler, essayer d'obtenir des grâces. Et finalement, découragé devant tout ça, il décide d'échanger ses habits d'évêque, même si ce sont des habits pauvres,
pour la défroque, dit-on, d'un mendiant, et il s'est enfui incognito comme ça jusqu'au fond de l'Allemagne, dans un couvent cistercien de son ordre, mais un des jeunes garçons de son diocèse est parti à sa recherche, demandant partout si on ne l'avait pas vu passer, et le retrace en Allemagne et le ramène en le suppliant de revenir parce que tout le peuple l'attend. C'est assez étonnant de penser qu'il avait pu s'enfuir comme ça, mais son cœur de cistercien et de contemplatif était toujours là au fond de lui-même. Et alors là, il est demandé par le pape pour rétablir une certaine entente entre le roi d'Angleterre et le roi de France. On le charge de responsabilités énormes, mais il réussit jusqu'à un certain point en les faisant se parler, et le roi qui est le plus opposé à lui, n'est-ce pas, eh bien, il est si ravi de voir Pierre de Tarentaise que le roi se jette à ses genoux par dévotion, et puis il adore en lui la présence de Dieu qui le rend complètement bouleversé. C'est absolument phénoménal. C'est un homme qui avait un ascendant sur tout le monde, y compris ses propres ennemis. Et il est mort en 1075 à 73 ans. Et on peut dire que la paix s'était répandue partout dans son diocèse, dans les diocèses environnants. Il a eu une influence énorme sur les vocations de cisterciens. Il a attiré, comme j'ai dit, non seulement les membres de sa famille, mais quantité de gens qui l'ont voulu le suivre, soit dans le clergé séculier, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sont entrés dans des monastères qui se sont multipliés à travers la France. Voici pour terminer une prière moderne qui complète un peu ces deux aperçus de vie de saint que l'on célèbre aujourd'hui le 8 mai, Catherine de Saint-Augustin et Pierre de Tarentaise. Elle est tout à fait dans leur esprit. Seigneur notre Dieu, nous t'appelons du nom dont Jésus t'a nommé. Il pouvait t'appeler Père, il était ton Fils, l'image de ton amour des hommes. Si nous sommes à son image, tes fils, le monde verra que nous n'avons qu'un Père. Alors, ton nom de Père sur nos lèvres ne sera pas lettre morte, mais parole authentique, prononcée avec respect par Jésus, ton Fils. Amen.
Alors, pour terminer notre émission Rencontres spirituelles, j'annonce justement une série de rencontres. La première, c'est un rendez-vous de développement et paix, une soirée de solidarité pour le Rwanda. Depuis quelques mois, on entend parler du Rwanda sans vraiment comprendre ce qui s'y passe. Nous nous sentons parfois démunis devant tant d'informations que nous voyons, que nous entendons. Nous aimerions réagir, mais nous ne savons pas toujours comment. Alors, les invités de cette soirée qui aura lieu lundi le 15 mai à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre à 920 rue Saint-Jacques à Longueuil. Jacques Bertrand, coordonnateur aux ressources pédagogiques à développement et paix, sera invité. Il a fait partie de la mission de développement et paix qui est allée au Rwanda après les événements de l'été 94. Et il va vous entretenir sur les perspectives et sur le rôle de développement et paix au Rwanda. Et il y aura aussi sœur Carolina Mikalina, une religieuse des Petites Sœurs de Jésus, rwandaise, qui vit au Canada depuis septembre 1994. Elle vous entretiendra sur la réalité du Rwanda. Avec elle, nous essaierons de comprendre historiquement le pourquoi de ces événements. Donc, lundi le 15 mai, de 19h30 à 22h, à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, 920 rue Saint-Jacques, à Longueuil. Et si vous voulez d'autres informations, il faut communiquer avec Jean-Paul Saint-Germain au bureau régional Rive-Sud-Estrie au 679-1100. Il y a aussi une invitation
La vie montante, mouvement chrétien international des retraités du diocèse de Montréal. C'est un grand rassemblement des aînés qui aura lieu à la chapelle de la Réparation, le métro Honoré-Beaugrand et l'autobus 187, le mercredi 31 mai 1995 de 10h à 15h30. Et les objectifs de cette rencontre, de ce grand rassemblement, c'est premièrement, redécouvrir les valeurs humaines et spirituelles. Deuxièmement, témoigner de la sagesse et de la tendresse de Dieu. Et troisièmement, partager vos expériences de foi et d'espérance. Et il y aura une célébration de l'Eucharistie. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler à 259-7812. Il y a aussi une autre rencontre, qu'on appelle, c'est l'Association des Arches du Québec. C'est le grand mouvement de Jean Vanier. Le 15 mai, il y aura une soirée bénéfice avec une allocution de Jean Vanier puis une possibilité de s'entretenir avec lui à cette occasion. Les fonds recueillis seront partagés entre l'Arche internationale et la Fondation des Arches du Québec de 18h à 20h au Jardin botanique de Montréal dans la grande salle d'exposition. Évidemment, c'est une soirée bénéfice qui va vous coûter quelques sous. Ça coûte 100$. Mais si vous voulez un peu plus d'informations, il faut appeler à 382-9296. Et le 16 mai, c'est le lancement des nouveaux livres de Jean Vanier, organisé par Novalis avec la collaboration de la Fondation des Arches du Québec. Il y aura une conférence de Jean Vanier en français et en anglais. L'heure, c'est 19h30 à l'Oratoire Saint-Joseph. Et cette fois-ci, c'est pour vous et moi. Admission 5$. Une autre annonce aussi. Vous savez qu'il existe à Montréal un groupe qui s'appelle Sentier de foi. C'était le père Irénée Beaubien qui se retire à partir du 1er juillet. Et il est remplacé par sœur Madeleine Grégoire, qui va diriger Sentier de foi à compter du 1er juillet. Sentier de foi offre un accueil inconditionnel aux chrétiens qui, pour diverses raisons, ont pris leur distance avec l'Église institution. Sœur Grégoire est familière avec les exercices spirituels. Elle a étudié au Centre international Lumen Vitae à Bruxelles, à l'École de la foi à Fribourg, et elle détient une maîtrise en théologie de l'Université de Sherbrooke. Je remercie M. Raymond Beaugrand-Champagne, notre metteur en onde Gaétan Galipeau, ici René Barbin. Et nous allons terminer sur un fond musical avec une prière de Catherine de Saint-Augustin.
Père très saint, c'est pas une prière de Catherine de Saint-Augustin, c'est une prière en l'honneur de Catherine de Saint-Augustin. Père très saint, toi qui inspirais à ta servante, Marie-Catherine de Saint-Augustin, le désir d'accomplir entièrement ta volonté en portant la croix, toi qui lui as donné de suivre héroïquement sa vocation missionnaire en Nouvelle-France, toi qui lui as aussi inspiré de mener avec constance et délicate charité une vie de miséricorde corporelle et spirituelle, que par ta grâce, ô Père, et à son exemple, nous soyons davantage attentifs à ta volonté, patients dans la souffrance et charitables envers tous nos frères et nos sœurs. Et qu'enfin, dans ta bonté, ô Père, l'Église déclare sainte la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, pour la plus grande gloire de ton nom.